Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Radio Foot International qui n'a particulièrement pas usurpé son nom ce lundi 24 mars. Les joutes entre sélections nous animent ces jours-ci avec un petit côté vintage qui ravira les plus anciens d'entre nous ou pas. Alors je ne parle pas du nouveau maillot des Bleus, il est très sympa au demeurant. Je parle de cette formule. Le foot se joue à 11 et l'Allemagne gagne à la fin. C'est de nouveau vrai pour les Français. Deuxième défaite de rang face aux voisins en amical ce samedi. 2-0, c'est clair, c'est net, c'est sans bavure. Le retour de la Dutch Qualität et surtout le retour des mots bleus. Absence de Griezmann, méforme de Mbappé, fiasco de Koundé, Tchouaméni, Thuram. Alors je leur conseille à ces joueurs de ne pas écouter Radio Foot ce lundi puisque Naïm Meunier est dans la place et il ne va pas les rater. Bonjour Naïm.
Salut Hugo, salut à tous.
Bonjour Eric Rabessandratana.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Vous nous avez manqué ce samedi en défense centrale.
Ah.
Moi je pense que Pavard, oui,
j'aurais pu, j'avoue que je n'ai pas été fan de Oupa Mécano, de Koundé.
Vous seriez peut-être même meilleur que Koundé à droite.
Peut-être. En forme, évidemment.
Et mieux habillé.
En forme de quoi?
Je ne sais pas, mais en forme.
Et mieux habillé, évidemment. Enfin, bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
L'amoureux du football africain que vous êtes sait que nous avons vécu à un moment historique ce week-end, la derby de Gradel. Sous le maillot des éléphants, très émouvant. C'était à Amiens, chez Naïm Meunier. On ne peut pas tout avoir pour soigner sa sortie. L'homme aux deux cannes prend sa retraite internationale avec une place de choix dans le Panthéon ivoirien et dans notre émission. Alors, quelle place exactement dans le Panthéon du football dans son pays? Eh bien, réponse tout de suite.
Sortie numéro 15. C'est son dernier match avec la Côte d'Ivoire. Tout le monde debout dans le stade, s'il vous plaît.
Émotion. Émotion, fierté, toutes les choses qui sont passées dans mon esprit, dans ma tête, et c'était vraiment incroyable. Trop de choses. Je suis fier d'avoir accompli ce que j'ai accompli dans le football et aujourd'hui je pars de la sélection avec le sentiment du devoir accompli.
Il ne rejoint pas le cimetière des éléphants, plutôt leur Hall of Fame. Selon moi, c'est une place de choix qui lui est réservée. Je me mouille, je réponds un peu à la question que j'ai moi-même posée. Après le nul de partout contre le Bénin samedi en amical, la première sortie de la Côte d'Ivoire depuis son troisième triomphe en Coupe d'Afrique des Nations, Max-Alain Gradel a rendu son tablier, son maillot orange, plutôt le brassard de capitaine qui était parfois enroulé autour de son biceps. La fin d'une aventure qui aura duré plus de 100 sélections et qui se sera soldée notamment par deux cannes en 2015 et en 2023 ou 2024, c'est selon. Contrairement à ses anciens coéquipiers, Drogba, Yaya Touré, Gervinho, Max-Alain Gradel n'aura pas connu le très très haut niveau en club. Bon, Saint-Etienne, Toulouse, un peu l'Angleterre, la Turquie actuellement, mais il aura été déterminant dans la conquête de deux Coupes d'Afrique. Et ça, ce n'est pas rien du tout. C'est deux de plus qu'un certain Drogba, une de plus que Yaya Touré, Patrick Juillard. Peut-il, Max-Alain Gradel, disputer à ses glorieux contemporains la première place dans l'histoire du football ivoirien?
Mais c'est typiquement le joueur de sélection, Max-Alain Gradel. C'est-à-dire que c'est un joueur qui s'est transcendé, qui a donné le meilleur de lui-même sous le maillot national. J'ai fait un peu une sorte de récapitulatif de sa carrière aujourd'hui pour revenir sur ses presque 13 ans de sélefanto, des sélections ivoiriennes. Et il a eu toujours les bons matchs au bon moment. C'est-à-dire que la première fois qu'il porte le brassard, 5e minute, il marque le but de la victoire. C'est un exemple. Il a toujours su faire pencher les coachs en sa faveur quand il y avait des hésitations, parce qu'il est souvent parti comme n'étant pas un titulaire certain avant les grandes compétitions. Il a toujours fini dans l'équipe type, dans le 11 de départ. Donc, c'est vraiment le signe d'un joueur comme ça. Après, est-ce qu'il y a un tournoi qui va rester comme son chef-d'œuvre, comme le tournoi où il a tout survolé? Je ne pense pas, mais c'est le défaut d'une qualité. C'est-à-dire que c'est un joueur extrêmement régulier en sélection. Si on regarde les lignes de stats depuis ses débuts, il y a régulièrement des marques dans les colonnes buts et passes décisives de manière vraiment très harmonieuse. Donc un joueur à la fois buteur, passeur, un joueur collectif, un super état d'esprit et une sincérité, une simplicité. Et puis une trajectoire intéressante parce qu'on oublie qu'il est venu au haut niveau en Angleterre, ce qui est assez rare pour les joueurs ivoiriens. Qui lui donne un petit côté un peu différent.
C'était déjà à Bournemouth ?
Non, Leicester en Ligue 1.
Leicester en Ligue 1 et puis à Leeds United ensuite. Oh, avant
qu'ils visent le haut niveau.
Ouais, mais...
c'est pas le Leicester champion d'Angleterre.
Mais ensuite, Leeds United qui était encore un club, là pour le coup, un club de
mais il a
de
une histoire un petit peu troublée avec Bournemouth parce qu'il y...
Il a été prêté à Toulouse.
Il va à Saint-Etienne, il retourne à Bournemouth.
Disons les choses clairement, c'est que la carrière en sélection ne reflète pas sa carrière en club. C'est-à-dire que ses belles années, c'est Saint-Etienne. Son fait d'armes majeur, c'est la Coupe de la Ligue en 2013 avec Galtier. Tout ce qui a suivi derrière, c'est des
choix. C'est le dernier titre de Saint-Etienne.
Oui.
Qui, au passage, possède l'un des plus beaux palmarès du football français. Oui, donc,
bien entendu.
Ce n'est pas rien.
Et puis, je crois que c'est son dernier titre en club.
C'était le premier depuis très longtemps aussi pour Saint-Etienne. Donc, il y a ce fait d'armes-là. Mais derrière Saint-Etienne, tous ses choix de carrière ont été plus ou moins alambiqués. Il y a eu Bournemouth, Toulouse, Sivasspor, Gaziantep, la Turquie. C'est des clubs très obscurs. Mais justement, le fait d'avoir un niveau en club qui n'était pas faramineux, il arrivait quand même à avoir un niveau en sélection qui était très bon. Et c'est un mec qui, tout au long de sa carrière, sans appartenir à de grands clubs européens, qui avait des qualités techniques, notamment sur coup de pied arrêté, Gradel, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, pas du tout. Moi, je n'étais pas pétri d'admiration devant lui, mais il avait des qualités techniques. Mais c'est un joueur dont le niveau en sélection n'a jamais fait tâche par rapport à ses coéquipiers. Aujourd'hui, il joue avec Crasso, Boga, Diakité. Bon, voilà, vous n'avez pas besoin d'être un phénomène pour exister.
À l'époque,
quand tu jouais avec, tu as eu Drogba, tu as eu Touré, tu as eu Salomon Kalou, Gervinho, tu avais quand même 3-4 gars qui savaient jouer au foot. Et lui, il n'a jamais fait tâche là-dedans. Tu t'es pas dit, comme on peut se dire pour Marcus Thuram, il n'a pas le niveau. Tu peux pas te dire ça. Gradel, il a toujours eu le niveau.
C'est placé.
Même s'il est... Non, mais
une balle perdue.
Même s'il a... on va y arriver. Donc, je commence déjà à dégainer un peu.
Elle va finir par trouver sa cible. Pour l'instant, c'est une
Et vraiment, moi, je suis pas admiratif de son football à Gradel, mais je suis admiratif de sa carrière. Et je souhaite à la Côte d'Ivoire et à tous les pays d'avoir des joueurs comme ça parce que... Je pense que dans les années à venir, on aura des carrières internationales basées énormément sur l'opportunisme, la binationalité, qu'est-ce que ça m'amène pour ma carrière, qu'est-ce que ça m'amène pour mon transfert. On sera peut-être moins sur la fibre patriotique amoureuse. Lui, il avait une espèce de romantisme un peu. Je le regretterai pour ça.
Bon, après, on peut aussi dire, pour ceux qui l'ont rencontré, que... On est face à un footballeur à la tête bien faite. Pas forcément le meilleur en termes de jeu de tête, parce qu'il est, petit et c'est clairement pas de ses qualités, mais une tête très bien faite, plutôt quelqu'un de posé, réfléchi, ce qui peut-être aide aussi justement à retrouver l'essentiel, notamment lorsqu'on porte les couleurs de son pays, Eric Rabès-Andratana, être tourné vers le collectif. Même si on est un joueur offensif.
Ouais, bah, j'allais dire, c'était un joueur de devoir, donc en plus qu'il avait des qualités, donc forcément... Forcément, ça va avec, dans l'engagement. Et puis après, derrière, il était capable de faire la différence aussi. Alors, c'est vrai qu'il a forcément pas la carrière qu'on a pu voir en sélection. Et 10 ans en sélection, ça compte quand même. 13 ans, exactement. Sans sélection, ça représente beaucoup pour
mais surtout dans des pays où ça bouge beaucoup.
Exactement. Et surtout, quand on voit ce qui est passé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les joueurs de qualité qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, il était là, il est toujours là. Ça veut dire qu'il y a une longévité, c'est un joueur de devoir, comme je disais. Et puis derrière, voilà, je pense qu'il finit la boucle en marquant un but. Alors, il a été un peu aidé par le gardien, mais quand même.
Je ne l'ai pas précisé, mais la Côte d'Ivoire a été menée 2 fois au score. Mais ça, j'ai envie de dire, on va même arrêter de le préciser sur les matchs de la Côte d'Ivoire. Oui. Évidemment qu'elle est menée au score. Là, 2 fois contre le Bénin en amical.
Toujours des dingueries. Ouais.
Celui qui égalise une première fois, sur coup franc, Max-Alain Gradel.
Ouais, à l'Agbé, ce n'est pas irréprochable, mais le but, il faut le mettre.
Oui, mais à l'image du joueur, vous dites... Il a raté très peu de virages, il n'a pas raté sa dernière sortie.
Et puis surtout, il a eu du mérite, parce qu'on ne le sait pas forcément, il s'est fait 2 fois les croisés, en 2013 et en 2015. C'est pas rien, ça. C'est pas rien de se faire 2 fois les croisés, de manquer chaque fois entre 6 et 9 mois, et de revenir, et de rester régulier, de rester appelé. Il y a eu beaucoup de sélectionneurs très différents dans leurs choix et dans leurs orientations à la tête de la Côte d'Ivoire, entre François Zaoui et Hervé Renard. Ils l'ont tous appelé. parce qu'il avait cette capacité à donner plus en sélection que ce qu'il pouvait donner en club. Ça me rappelle un peu un certain Aristide Bansé au Burkina Faso.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on a des exemples un peu de joueurs comme ça, finalement assez différents dans leur capacité à être importants pour leur équipe nationale?
Ola Aina au Nigeria aujourd'hui.
Moi, j'aurais pensé, en sortant du continent africain et en anticipant un peu sur notre prochain sujet, à Olivier Giroud, par exemple.
Olivier Giroud, il est dans une autre sphère.
Un petit peu dans la même idée du joueur indispensable.
À ce moment-là, parle-moi de Matuidi. Plus que Giroud.
Oui, mais Matuidi, il était titulaire.
Fait une très belle carrière en club. Pour moi, c'est plus.
Giroud était remplaçant et titulaire remplaçant en club à Chelsea, Arsenal, ou et titulaire indiscutable en équipe de France, par exemple.
Après, tu peux pas comparer les performances en sélection.
Olivier Giroud n'est sur quand même du très haut niveau.
Ouais. Franchement, j'avoue, parce que c'est.
Bien sûr, c'est sous-côté.
C'est pas vraiment la question.
C'est pas vraiment la question. De toute façon, on en parlera.
Il fait partie. Non, mais tu as raison de. Tu as raison de le présenter comme ça.
On avait Miroslav Klose aussi en Allemagne, qui n'était pas toujours titulaire en club, mais qui était...
Non, bon, écoutez, monsieur, là, vous allez vous calmer immédiatement. Okay. Moi, je vais casser le studio. Hein.
Vous n'êtes pas d'accord avec mes comparaisons.
Pensez plus à Aristide Bansé.
On va rester en Afrique avec Patrick Gérard. Alors, Aristide Bansé avec le Burkina Faso.
Oui, parce que Bansé, quand on regarde sa carrière en club, il est passé en Finlande, il était à Mayence, mais pas toujours titulaire. Enfin, c'était même quand il jouait dans des beaux championnats, il ne jouait pas dans des top clubs de ces championnats-là. Mais en équipe nationale avec les étalons, il était comme Gradel en Côte d'Ivoire.
Mais le Burkina, tu ne peux pas comparer avec le
Côte d'Ivoire
aussi. C'était
le joueur clutch, quoi.
Non, oui, c'est là il y a l'aspect concurrence
sur le même.
C'est logiquement il y a un réservoir.
Tu sais,
une
différence de niveau.
Tout le monde parle en même temps.
Tu sais pourquoi ce genre de joueur comme alors plus Gradel que Bansé, parce qu'on va dire que le Burkina Faso est peut-être moins riche en joueurs que la Côte d'Ivoire. Mais des joueurs comme Gradel brillent par leur exemplarité, par leur comportement, leur attitude, parce que ils arrivent aussi, ils ont traversé les époques et ils arrivent aussi à une époque, à ce que je te disais il y a 5 minutes, c'est que t'as beaucoup de joueurs aujourd'hui qui viennent prendre une sélection nationale pour l'aspect commercial, pour l'aspect business, pour leur carrière, pour leurs intérêts. Voilà, tu peux pas jouer en équipe de France, t'as pas le niveau. Attends, je vais me trouver deux gouttes de sang ivoirienne, algérienne, esquimo si tu veux, puis je vais aller jouer. Et le fait que ce mec-là.
Au propos, n'engage que vous.
Absolument, mais il n'y a pas de problème, c'est la vérité.
Vous pouvez critiquer mes parties.
Non, mais je pense qu'essentiellement de joueurs
d'ailleurs,
aujourd'hui prennent des sélections nationales.
Pour Andy Delors, hein.
Oui, mais on peut, tout à fait. Ou Wilfried Zaha. Et donc, tu as beaucoup de joueurs aujourd'hui qui viennent par opportunisme. Je pense que Gradel, c'était l'inverse de ça. Je pense qu'on était sur un anti-Delors, on était sur un type qui avait profondément,
la fibre,
une espèce de romantisme.
Patriotique.
Et ça joue énormément.
En tout cas,
parce que tu en auras de moins en moins, malheureusement.
Alors, pour Delors, c'est encore une balle perdue, mais c'est vrai que Zaha était l'un des concurrents possibles et logique, et même devait être au-dessus dans la hiérarchie en termes de talent.
Il faut savoir
en Côte d'Ivoire, et finalement, c'est Gradel qui...
Et avant cette CAN, Emers Faye a beaucoup insisté pour que Zaha ne soit pas sélectionné avant même qu'il ne soit nommé, qu'il prenne la suite de Gassé. Et c'était vraiment son choix de plutôt donner la priorité à Max Alain Gradel, même si... Il n'y a qu'à voir en club, Zaha joue en Turquie, Galatasaray, Gradel joue à Gaziantep Football Club.
C'est un peu plus bas, mais...
Mais Naïm a raison, en termes d'engagement et de fibre patriotique, c'est incomparable.
Patrick Juillard, vous avez donc le pédigré Max-Alain Gradel avec le maillot des éléphants sous les yeux, nombre de buts de passes décisives, vous avez ça ?
J'ai pas les passes, c'est 17 buts en 106 sélections, si j'ai bien compté.
Donc on est finalement sur des stats qui correspondent un peu à un joueur... certes offensif, mais aussi un peu de devoir, qui n'est pas toujours en train de mettre le
but.
On est au-dessus de 10.
Je vais vous le retrouver dans peu de temps. Mais...
Oui, parce que vous êtes un homme de précision, contrairement à moi, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on était le 24 mars, on est le 25.
Aïe.
Vous voyez, là, j'aurais eu du mal. Si j'avais été joueur de foot, je l'aurais pas mal mise
à côté. Un jour avant pour jouer le match, peut-être.
Ouais, et même... Là, ça aurait été vraiment embêtant. Vous imaginez, vous arrivez un jour trop tôt à Amiens. En parlant d'Amiens, justement, parce que pour la Côte d'Ivoire, on va les laisser de côté. Ils jouent demain à Lens.
Très jolie ville.
C'est pour ça qu'ils étaient à Amiens.
12 passes décisives.
Voilà, 12 passes décisives pour Gradel. Demain, la Côte d'Ivoire à Lens contre l'Uruguay.
Ah, c'est intéressant.
C'est intéressant. Amiens, en revanche, c'est vraiment la place forte du foot africain sur cette trêve internationale et du journalisme.
comme vous y allez.
Mon ami Naïm Moniol, il y avait vendredi... À la veille donc du Côte d'Ivoire-Bénin, il y avait Sénégal-Gabon. 3-0 pour le Sénégal.
Ouais.
Bon, il n'y a pas vraiment eu match. 3-0 pour le Sénégal. Premier but contre son camp à la 12e. Michael Faye
Ngoye, ouais.
À la
44e pour le 2-0. Et puis un certain Sadio Mané qui a enfin conclu le festival dans le temps additionnel. Le Sénégal qui n'est plus donc champion d'Afrique en titre, c'est la Côte d'Ivoire, mais qui l'était jusqu'à il n'y a pas longtemps et qui doit se remettre de son échec en 8e de finale de la CAN face à la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire justement. Est-ce que c'est prometteur, ce qui s'est passé vendredi à Amiens ?
Le Sénégal, moi, je ne me fais pas trop de soucis pour le Sénégal. Il y aura forcément, à mon avis, dans les mois et peut-être les deux années qui viennent, des petits flottements parce que beaucoup de cadres vont prendre leur retraite et beaucoup de joueurs importants ont fait le choix d'aller en Arabie Saoudite. Et plus on s'inscrit dans la durée dans un championnat comme celui-là où on joue en pleine chaleur à un niveau assez faible, plus on est... on n'est plus au niveau des exigences du haut niveau international.
Donc, il n'y avait pas Aubameyang avec le Gabon
Alors
au passage.
Ça, c'est autre chose. Aubameyang, pour sa première avec Thierry Mouyouma, il n'est pas venu. Il a été convoqué, il a dit « je suis blessé, je ne viens pas ». Ça, ça n'a pas été trop apprécié par le staff qui aurait préféré qu'il vienne faire constater sa blessure. Et du coup, il n'est plus rappelé. Ça,
c'est normal.
Ce sont des nouvelles règles qui ont été mises en place parce que le Gabon, enfin, certains cadres de l'équipe du Gabon prenaient un peu les panthères pour le Club Med hein, avant ce sélectionneur.
On n'est pas sur du Max-Alain Gradel.
Non.
Pour le dire en termes.
Non, on n'est pas sur des joueurs engagés. Non.
Ils se plaisent à Amiens dans les Sénégalais ou leur prochain match, c'est.
C'est Bénin.
Bénin est
toujours
à Amiens.
Toujours
parce que le Bénin et le Sénégal ont vraiment pris leur quartier en Picardie.
C'est une ville au demeurant charmante. J'aime pas votre sarcasme, hein, monsieur Moissonnier.
Il y a aucun
sarcasme. Je vais préciser aux auditeurs que vous venez de Reims.
On ne comprend pas.
Oui, c'est vrai.
C'est intéressant ce qui se passe au Sénégal parce que la CAN est un échec. On va se parler franchement. Quand vous êtes champion en titre, que vous avez un effectif comme ça, vous sortez en 8e, c'est
surtout
un échec.
Surtout après un premier tour qui laissait entrevoir d'autres promesses.
La Côte d'Ivoire qui était quand même s'est fait gifler le match d'avant. Donc. Le fait que des joueurs sont en train de partir, d'autres sont en train d'arriver, il y a un vrai renouvellement, des jeunes, voire des très très jeunes, parce que Amara Diouf, 15 ans, c'est vraiment gamin, c'est vraiment minot.
15 ans.
Oui,
chaque jambe.
Oui, effectivement, on peut partir là-dessus, c'est vrai, tu as raison. Non mais il a raison. Mais c'est bien qu'il y ait des jeunes qui arrivent, Faye, Sano, c'est super, le petit Lamine Camara aussi. Maintenant, pour que ça prenne, il va falloir que ces gamins-là quittent les clubs où ils sont. Moi, c'est ce que je regarde. Sano joue à Al Gharafa. Quand tu as 19 ans et que tu es prometteur, tu ne peux pas jouer au Qatar. Jouer Faye qui joue au Barça B. Parce que tout à l'heure.
Le deuxième buteur du match.
Quand vous m'envoyez le sommaire, j'ai compris là où vous vouliez en venir. Est-ce que le fait qu'il ait bien joué avec le Sénégal, ça peut redistribuer les cartes à Barcelone? Moi, je vais vous dire un truc. L'entraîneur va quitter.
Non, mais. Certain Alex Ball.
Surtout au milieu de terrain.
L'entraîneur va partir en fin de saison. D'accord, on ne sait pas qui va arriver. Soit on
va
a affaire
partir,
à un mec, voilà. Il a annoncé.
C'est pas prévu, mais c'est pas certain.
Voilà, il y a aucun défenseur qui est en fin de contrat en fin de saison. Le premier, c'est Inigo Martinez en 2025. Alors moi, je veux bien.
Revenez sur le Sénégal.
Non. Moi, je veux bien qu'on revenez. Je reviens sur le Sénégal. Moi, je veux bien que Faye ait fait un super match avec le Sénégal et qu'il ait besoin de temps de jeu. Mais c'est pareil, il faut qu'il quitte le club. Et je pense que la nouvelle génération sénégalaise, qui est très prometteuse à tous les postes, hein, elle va avoir besoin de s'exprimer en club. Pour que le Sénégal reste sur un niveau de performance équivalent.
Allez, le mot de la fin pour Eric Rabessandratana, qui a coaché en Afrique, qui a joué aussi avec Aliou Cissé.
Et qui a sélectionné des joueurs de 15 ans aussi.
Et qui a joué contre le Bénin.
Sur Aliou Cissé, votre ancien pote. Enfin, encore que je ne sais pas si vous êtes souvent en contact, si vous vous parlez régulièrement.
Non, ça fait un moment.
Est-ce que vous êtes content qu'il ait été confirmé? Il est en poste depuis 2015. Beaucoup de belles choses, de participation à la Coupe du Monde, une CAN remportée. Il aurait pu être... fragilisé, il l'a été un petit peu. Et finalement, là, c'est avec lui que va s'opérer la transition. Ça vous fait plaisir?
Ouais, ça me fait plaisir parce qu'il est récompensé, tout simplement. Quand tu gagnes la CAN avec le Sénégal, c'est pas une anecdote. C'est vraiment que... Voilà. Et puis, ça a été après 7 ans qu'il a gagné. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un travail, un vrai travail de fait. Donc, voilà, il est sur une dynamique. Alors, c'est sûr que bon, les résultats ne sont pas ceux qu'on attendait. Mais il n'empêche que voilà, il a installé quelque chose. On va voir un peu la transition. Peut-être que ça ne durera pas, puisque finalement, on va voir. Il y a le travail d'Aliou Cissé et il y a la réception des joueurs par rapport à ce qu'ils demandent. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais
surtout avec une nouvelle génération.
Voilà, surtout avec les nouvelles générations.
En tout cas, ça a pas mal commencé vendredi avec donc ce succès 3-0 face au Gabon. On a parlé de l'avant-dernier champion d'Afrique. Eh bien, parlons à présent de l'avant-dernier champion du monde.
Je lui dirai les mots bleus.
Il va frapper, ouvrir le score d'entrée. En quelques secondes, personne n'est monté sur Florian Philippe.
Ridicule. passe, puis je recule.
Il manque beaucoup de choses. On est vraiment complètement à côté de la plaque, là, défensivement.
L'instant fragile d'une rencontre.
Oh, quelle démonstration! Oh, quelle démonstration! 42e minute, l'Allemagne mène 2-0. Un gros coup sur la tête des vice-champions du monde. Avec les sifflets du Parc OL et le masque pour Didier Deschamps.
Oui, on a été défaillant. Sur ce plan-là, on n'a pas été à la hauteur ce soir.
Les mots bleus, ceux d'une rencontre face à l'Allemagne. Ces dernières années, la peur semblait avoir enfin changé d'équipe. Les Bleus battaient régulièrement la Mannschaft, qui elle enchaînait les fiascos en compétition, contrairement à la France. Mais à quelques mois de l'Euro, en Allemagne justement, les courbes se croiseraient-elles ? Deuxième défaite de rang des Bleus contre l'Allemagne. La première, c'était en septembre à Dortmund avec un intérimaire sur le banc. Bon, test de l'accident. Et puis, il y a eu cette deuxième, une vraie baffe, samedi à Lyon. Défaite 2-0 sans contestation possible. Ah non, première observation, Neymoniol, pour la première fois depuis très longtemps. L'équipe de France était privée d'un certain Antoine Griezmann, vice-capitaine et beaucoup plus que cela. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, à la fois meilleur milieu défensif, meilleur milieu relayeur, meilleur milieu offensif,
meilleur 10,
et parfois meilleur attaquant.
Et très bon défenseur central.
Est-ce que on tient là 50, 60, 70% de l'explication de la déroute
On tient pas toute l'explication, mais on tient une partie de l'explication. Et je renvoie à ceux qui nous expliquaient qu'on n'aurait pas pu aller en finale de Coupe du Monde sans Kylian Mbappé. Bon bah voilà, la vérité c'est que sans Griezmann l'équipe de France n'est pas bonne, mais c'est surtout que sur ce match, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on a été défaillant sur le secteur qui normalement fait notre force, la défense. Le bloc équipe, la relation milieu-défense, le fait de ne pas laisser d'espace, d'être fort dans les duels, intensité, d'être sur les premiers ballons, d'être sur les deuxièmes ballons, d'être bon de la tête, on en a pas beaucoup parlé parce qu'on n'a pas pris de ballon, on n'a pas pris de but de la tête, on n'a pris aucun ballon aérien dans notre surface. Donc quand je vois par exemple Wirtz qui fait 1m77 aller chercher le ballon de la tête à Upamecano qui fait 1m90, je vais pas coucher l'esprit tranquille. Donc ça veut dire qu'on a été archi défaillant sur un secteur qui fait notre force. On sait que sans Griezmann, on n'est pas bon techniquement, ce qui n'empêche pas nos trois milieux de terrain qui sont tous gaulés comme des Citroën Berlingo de jouer un petit peu plus juste. On sait qu'on a du déchet devant. Regardez un match du PSG, toute l'avance que Dembélé prend sur les 80 premiers mètres du terrain, il est rate sur les 20 derniers parce qu'il a pas de QI foot. Mais là où on a vraiment pas été bon, c'est sur la défense, alors que normalement c'est ce qui nous permet de gagner les matchs ou en tout cas de ne pas les perdre quand on est défaillant. Et ce n'est pas la première fois, rappelez-vous l'Argentine. Et je vais vous dire autre chose, rappelez-vous l'Angleterre à la Coupe du Monde.
Et la
rappelez-vous
Grèce.
L'Allemagne en 2023. Et je me suis dit, une réflexion au soir de ce match-là, c'est que la dernière fois que l'équipe de France a battu une vraie équipe avec un contenu intéressant, bah c'est la Ligue des Nations 2021, quand on avait joué la Belgique et l'Espagne. Et ça fait quand même bientôt 3 ans, ça fera 3 ans au mois de juin, qu'on est plus fichu de gagner une grosse équipe avec un contenu intéressant. Et soit on gagne en étant mauvais, on va gratter un péno, ou alors il y a un exploit, Mbappé fait un sprint sur 60
la
mètres.
La frappe
et puis
de
voilà.
Chouameni contre l'Angleterre.
Exactement. Ou alors tu perds ces matchs-là. C'est devenu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu ça en équipe de France. Ça m'inquiète. Vous pouvez me dire, c'est la thèse de l'accident, ça arrive. Oui, mais ça arrive si on regarde les raisons, qui font, si on regarde les raisons qui font qu'on est défaillant. Bah, c'est des raisons qui se répètent. Depuis 3 ans, ce sont des raisons qui se répètent. Et il y a des individualités qui ont rien à faire là. Bon.
On va en parler juste après des individualités que vous voulez voir écartées. Si je vous suis, Griezmann, il pouvait être un peu un cache-misère. Alors, d'un système des champs qui est peut-être un peu grippé. Bon, on va quand même en finale de la Coupe du Monde.
Là, ouais. Là,
avec un grand Griezmann.
C'est réducteur pour lui, cache-misère quand même, je trouve. C'est
pas Eric Rabé Sandratana, développé.
Non, mais après Griezmann est un super joueur. Qui est certainement aussi sous-coté par rapport à ce
France.
Qu'il peut faire. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Il a peut-être pas la reconnaissance qu'il devrait avoir par rapport à.
Vous voulez dire que c'est le Max Alain Gradel de l'équipe de France,
par exemple.
C'est ça.
Non, parce que je pense que Max Alain Gradel est adoré en Côte d'Ivoire. On le reconnaît sa juste valeur.
Non, on l'aime bien en France, c'est... je pense. Non, mais
quand je dis cache-misère, c'est parce qu'il a ce volume de jeu, cette science tactique,
ce
travail pour l'équipe.
Si Simeone il est content de le récupérer, il y a une raison. C'est que ce mec-là, il est tellement important dans son système de jeu, dans l'apport offensif, dans la transformation du jeu. Je pars du milieu pour l'amener devant. Il y a pas 50 000 joueurs qui sont capables de faire ça. Là, contre l'Allemagne, il y avait personne en fait. Il y a peut-être Dembélé qui te l'emmène, c'est vrai, plus loin, mais derrière, ça enchaîne pas. Griezmann, ça enchaîne derrière. Il y a plein de choses dans son volume de jeu, dans son apport technique, dans sa culture au football.
Dans le QI foot,
voilà.
Ceci dit, Patrick Juillard, Griezmann...
Après, juste pour faire le point sur ce qui a manqué déjà au départ, c'est l'engagement.
Là,
je suis désolé, mais moi, j'ai vu des touristes. En plus, il amène ça. Moi, j'ai vu des touristes contre l'Allemagne.
Tu sais pourquoi? Pardon.
Non, mais c'est vrai. Je suis désolé. Moi, je... Alors, il y a des joueurs qui... Moi, Koundé, je pense qu'il a rien à faire là. C'est vrai. Tchouaméni, c'était à la ramasse. Upamecano, pour moi, c'était à la ramasse.
Zaïre Emery aussi.
Hernandez, il est à la ramasse, mais on le sait. Moi, je le vois jouer au Paris. Lucas Hernandez était à la ramasse parce que lui, il est à la ramasse physiquement en ce moment. Il est vraiment dans le trou. Et j'ai pas compris pourquoi il était titulaire déjà. Vraiment. Donc, ça fait déjà pas mal de joueurs. Et en plus, vous enlevez Griezmann, donc forcément, ça renforce.
Alors bon, on sent l'envie autour de cette table d'embrayer sur des individualités qui ont déçu. Par qui vous voulez commencer? Il y a pas mal de noms qu'on circule.
Pour moi, c'est le côté droit.
Patrick Juillard, puis après Naïm.
Le côté droit, c'est pas possible. On peut pas se satisfaire.
Non, mais arrière central qui joue à droite. Ça vous plaît pas,
gros,
ça, par
mais c'est insupportable. Non, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que c'est un défi au football, en fait.
C'est qui est responsable? C'est Deschamps ou c'est Koundé?
Deschamps a décidé la petite musique, c'est Klaus, il défend pas assez bien, donc il peut pas jouer au niveau international. Mais est-ce que vous trouvez, sur ce qu'on a vu contre l'Allemagne, que Koundé défend bien sur le côté droit?
Quand tu laisses autant d'espace et que tu joues bloc bas,
c'est
compliqué.
On peut lui reprocher d'offensivement pas assez apporté. Mais paradoxalement, contre l'Allemagne... Il a eu 2-3 touches de balle offensives relativement intéressantes en combinaison, mais défensivement, c'est une catastrophe. Il n'aime pas jouer à ce poste. Il ne veut pas jouer à ce poste. Pavard, quand il jouait à ce poste-là, au moins, il était sobre. Et il faisait à peu près le boulot défensivement, mais c'était aussi frustrant.
Pavard, c'est un défenseur.
Mais c'est impossible de continuer comme ça avec des joueurs d'occasion sur un poste de latéral qui est un poste spécifique où il faut des qualités de contre-attaquant et des qualités de passe et de centre qu'il n'a pas.
Voilà, Koundé rhabillé pour l'hiver, ça tombe bien.
Il a des belles bottes. Hein.
C'est rigolait, plutôt Deschamps là, que j'ai rhabillé pour l'hiver.
On ironisait tout à l'heure, Koundé, il adore la mode. Quelques audaces vestimentaires... lui font parfois être la risée des réseaux sociaux.
C'est la Fashion Week du foot. Hein.
C'est plutôt son sélectionneur qui est effectivement pointé du doigt par Patrick Juillard. Deschamps, je le laisse un tout petit peu de côté. On va revenir. D'autres joueurs qui vous ont peiné?
Oui, Tchouaméni, parce que c'est un garçon. En fait, le problème, c'est que Tchouaméni, physiquement, on veut en faire un Pogba. Il n'a pas du tout les mêmes qualités, il ne joue pas de la même manière, mais comme il est longiligne et noir, on dit c'est bon, c'est Pogba. Moi, j'ai quand même un vrai problème avec ce joueur, c'est que depuis la Coupe du Monde, il alterne entre le neutre et le pas bon. En fait, c'est ça, il n'y a pas réellement de vrai bon match de Tchouaméni. C'est quelqu'un qui n'amène pas de l'impact, c'est quelqu'un qui n'est pas très bon dans le jeu. On pourrait dire il est fort dans le jeu long, ben même pas en fait. Donc c'est un garçon qui est beaucoup trop neutre, voire pas bon. Et je ne veux pas parler d'Upamecano parce que la charnière centrale, c'est une association. Upamecano, je sais qu'il est capable de faire de bons matchs, plus avec Konaté qu'avec Pavard.
Tchouaméni, il a beaucoup joué en défense centrale du côté du Real Madrid pour dépanner.
Oui, mais pour dépanner,
une option, non.
Non, franchement pas. Franchement
pas. Déjà pas de latéral droit.
Et le deuxième, il faudrait que je compte le nombre de noms étonnés et désespérés que vous m'avez lâché depuis le début de l'émission.
Le deuxième, c'est évidemment Dembélé. Lui, il cultive un truc qui est très français finalement, c'est qu'il est toujours très performant sur les 80 premiers mètres parce qu'il est très rapide, il est très impactant, il prend le ballon, il court plus vite que vous. Mais sur les 20 derniers, comme c'est une accumulation de mauvais choix, il perd tout l'intérêt qu'il a eu sur les 80 premiers mètres. Et ça, c'est très français. Parce que Coman, c'est la même chose, parce que c'était déjà pareil avec Martial, avec Fekir.
Coman, c'est mieux que Dembélé.
C'est pas beaucoup mieux franchement en équipe de France. Et à un moment donné, on ne va pas refaire une révolution, on est à 3 mois de l'Euro, c'est aussi ça le souci. C'est que il reste un match contre le Chili qui sera ce qui sera, et puis derrière, tu es sur la liste définitive.
Le match contre le Chili, c'est demain à Marseille.
Tu es sur la liste définitive, et les deux matchs qu'on va avoir de préparation, contre qui je ne sais pas. Donc on va arriver là-dessus.
Alors justement, on va avancer, juste une dernière individualité au passage. Finalement, assez absente de vos analyses. Un joueur qui joue plutôt en haut à gauche,
Mbappé.
Il porte le brassard. On peut parler de Marcus Thuram. En tout cas, Mbappé Thuram, ça n'a pas fonctionné.
Marcus Thuram, ça va aller vite. Hein.
Il a rien
il
fait en numéro 9.
Introuvable et invisible.
Oui, mais le public a réclamé Giroud.
Thuram, il vient pas pour être titulaire. Mais en fait, non, c'est ça le vrai problème.
C'est Giroud qui va être titulaire.
Le vrai problème entre la différence entre Thuram, c'est que lui, t'attends pas à la même chose que Tchouaméni ou Pamecano. Les autres, ils sont déjà titulaires. Ils ont déjà fait la Coupe du Monde titulaire. Thuram, c'est un joueur de complément. Alors on dit qu'il remplacera Giroud à terme parce qu'il est plus jeune, parce que c'est à peu près le même poste.
Il joue en Italie. Mbappé. Moi, je veux bien. Et Kylian Mbappé.
Il a été plutôt inexistant dans le jeu. Après, offensivement, on n'a pas été terrible non plus.
Hein.
Je suis pas sûr. C'était vraiment pas terrible. À sa décharge autour, c'était pas terrible non plus. Donc voilà. Même si on attend beaucoup de lui.
Il était sur le côté fort de l'Allemagne avec Kimmich. Quand Dembélé était sur Middlestadt, qui est quand même le maillon faible.
Alors, on va revenir sur un peu ce que disait finalement Neymonial et ce qu'on disait au début. Donc, on a parlé d'Antoine Griezmann qui peut servir de cache-misère, mais qui peut aussi passer au travers. Quand l'équipe de France passe au travers, on se souvient de la finale de la Coupe du Monde. Neymonial disait que l'équipe de France finalement était passée au travers de pas mal de grands matchs et ne montrait plus grand-chose depuis pas mal de temps et s'appuyer sur beaucoup d'exploits individuels. Est-ce que, et vous avez parlé de Didier Deschamps, ça fait un peu le procès de Didier Deschamps, Patrick Gilliard, est-ce qu'effectivement on a de quoi avoir des inquiétudes sur le système Deschamps avant l'Euro ?
Il y a quelque chose qui ne m'a pas plu sur ce match France-Allemagne, c'est qu'on sait déjà depuis le début que Griezmann ne sera pas là. Pourquoi Deschamps n'a pas convoqué un joueur dans un profil comparable pour essayer aussi de...
Oui, mais qui ?
Ben, je sais pas, hein. Et c'est pas moi le sélectionneur.
Un mec qui est jamais venu, du coup.
Un Bourigeau, un mec comme ça.
Tu sais que Deschamps, à 3 mois de l'Euro, il prend pas un type que tu connais pas.
Mais c'est dommage. C'est dommage.
Oui,
parce
on peut
que
trouver
là,
ça dommage.
Est-ce que vous êtes inquiet
à
3 mois de l'Euro?
Faire des essais, et là, on en a
oui,
fait aucun.
Pas à 3 mois de l'Euro.
Est-ce que vous êtes inquiet à 3 mois de l'Euro? Qui veut prendre cette réponse?
Quand tu n'arrives plus à battre une grosse équipe et que défensivement, tu peux te faire bouger sur tous les gros matchs que tu joues, il y a de quoi être inquiet parce qu'on a une poule, il y aura l'Autriche, les Pays-Bas, puis on sait pas qui, la Pologne, le Pays de Galles. Bon, avec 3 qualifiés, on va y aller. Quand bien même, on aurait un 8e de finale à notre portée. À un moment donné, si tu veux être champion d'Europe, des gros. Voilà, va falloir au moins en faire un ou deux. Et puis, je vais quand même te rappeler un truc, c'est que derrière l'Euro, il y aura la Ligue des Nations, on a l'Italie et la Belgique. Donc, des gros matchs, on va en jouer. Là, à partir du mois de juin, juillet, jusqu'à les prochains 6 mois, un an et demi, on va en jouer des gros matchs. Mais on n'arrive plus à être bon dans les grands matchs, on les perd, on a des individualités très plafonnées.
La France les perd.
Rappelons-nous ce match contre la Grèce. La Grèce, c'est pas une grosse équipe.
C'est sûr.
Mais même contre la Grèce, la France n'arrive pas à maîtriser, à l'emporter.
Oui, c'est vrai.
Quoi. Donc c'est un peu inquiétant.
Éric Rabessandratana, Deschamps, normalement, il trouve par le bricolage, par les rustines, des solutions pour se relever quand l'équipe de France est à terre. Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Est-ce que là, vous le croyez capable, lui qui est là depuis 2012, de trouver les ressources pour rectifier le tir avant l'Euro 2024, avant l'Euro 2021,
avant
il avait essayé.
Avant l'Euro, je sais pas.
Et ça n'avait pas marché.
Non, mais après déjà avant la Coupe du Monde, c'était déjà pas terrible ce qu'on a fait. Donc
et la Coupe du Monde a été.
Et la Coupe du Monde a été bonne. Donc est-ce que ça c'est un indicateur? Je sais pas parce qu'on a quand même des joueurs qui sont
compétiteurs. L'Euro, c'est plus dur.
Ils sont compétiteurs. Ouais, je pense qu'il y a peut-être plus d'adversité dans l'Euro. Donc attention à se remobiliser. Mais je suis pas sûr qu'on soit capable de faire de grandes choses.
Bon, on va parler de l'Allemagne, pays hôte de l'Euro, et donc qui a battu la France ce week-end en match amical. Ce n'est qu'un match amical, calmons-nous. L'Allemagne, nouvelle version, entre guillemets, version Julian Nagelsmann sur le banc de touche, un sélectionneur récemment nommé, un peu pompier de service, hein, finalement, vu que l'Euro approche. Est-ce qu'elle prend forme, cette nouvelle Allemagne, Naïm Moniol, grâce à ses jeunes? Grâce à ses vieux aussi, et notamment un revenant, Toni Kroos.
Est-ce qu'elle prend forme? Il a fait 4-5 matchs, il y a quand même eu des matchs très moyens, et rarement la même organisation, les mêmes joueurs. Donc je pense qu'il... Dire qu'elle prend forme, disons qu'aujourd'hui, il a un match référence, plus que contre le Mexique, en fin d'année dernière, par exemple. À court terme, on a vu quelque chose qu'on n'avait pas vu avec l'Allemagne la saison dernière, c'est du jeu, des buts, de la cohérence, des associations. Le retour de Kroos fait énormément de bien. Wirtz, c'est une bénédiction pour l'Allemagne, surtout quand t'as pas un vrai neuf de métier, avoir Wirtz, Musiala, Havertz, qui sont pas des neufs de métier, mais qui sont capables de marquer
symbole,
des buts.
Le premier but au bout de
7 secondes.
De 7 secondes, c'est une passe de Kroos pour Wirtz.
On va dire que...
Le vieux pour le jeune, voilà. Et ça frappe et ça marche.
Après, ne serait-ce que sur le moyen terme, ça va dépendre de ce qu'il fait en défense. S'il remet Kimmich à droite, qu'il associe Rudiger et Hummels, il aura un côté faible côté gauche parce qu'il n'y a pas de vrai beaux arrière-gauche.
Voilà. Il a montré ses limites.
Ouais, puis même Gossens en général, il a même joué avec Havertz derrière. Bon, je ne sais pas qui va mettre à gauche, mais on va
il
dire que ça sera son côté.
Voilà.
Il l'a déjà fait, c'est pareillement
mais
un succès.
C'est pas facile.
Mais voilà, là au moins, on sait qu'on a une Allemagne qui a de la créativité. Parce que bah, entre Kroos, Gundogan, Musiala, Havertz et Wirtz, vous avez des mecs qui savent un peu jouer au ballon.
C'est
des mecs qui savent un peu, c'est un peu l'anti-France en fait. Hein. C'est-à-dire que nous, on a des mecs très costauds, pas de créativité. Eux, ils ont l'inverse.
Sans Griezmann.
Après, sincèrement, je vais être mesuré sur l'Allemagne parce que quand ils nous battent 2-1 l'année dernière, on se dit ah bah ça y est, c'est parti machin. Derrière, ils font pas des super résultats. Donc moi, j'attends de voir.
Ouais, je suis d'accord.
Oui, Eric Rabiot.
Ouais, franchement, je suis d'accord. Je pense que
pas plus convaincu que ça.
Non, mais après, il y a du talent. Ça, là-dessus, il y en a toujours eu. On va pas se voiler la face. C'est juste que il faut qu'ils soient tous coordonnés au bon moment, ce qui a pas été le cas depuis un petit moment. À part contre la France, où là, ça a été. On a vu une équipe jouer. Alors c'était facile parce que en face, la France a mis déjà au moins un quart d'heure avant de rentrer dans le match. Et après, le reste, c'était pas terrible. Donc c'était un match facile, je trouvais, et complètement maîtrisé par les Allemands. Donc je ne sais pas si c'est une vraie référence pour eux. C'est une référence parce que le résultat est important et que la France est une grande nation de football normalement. Donc là, on va dire qu'ils vont s'appuyer sur ce résultat-là. Mais je ne suis pas sûr qu'ils soient capables d'enchaîner derrière. Il va falloir un peu de résultats derrière pour qu'on dise voilà, les Allemands vont
revenir.
Moi,
j'ai trouvé que c'était un bon mix entre qualité de jeu collectif, qualité et initiative individuelle.
Mais Mouchala était très, très bon.
Bah, le premier but,
c'est exactement ça.
Wirtz,
donc je trouve
sa
que
chance.
Nagelsmann, qui est parfois un entraîneur qui a tendance à être un peu rigide, là, je trouve qu'il ne bride pas les joueurs. Donc ça a l'air plutôt, je trouve que c'est plutôt de bon augure pour l'Allemagne. Et puis, il y a, je trouve, un bon équilibre entre expérience et fougue et jeunesse dans cette équipe. Sur ce qu'on a vu, en tout cas, il y a un point faible, c'est plutôt le côté gauche avec Mittelstadt, on l'a dit. Et puis, le reste, c'est cohérent. Il y a du choix, il y a des joueurs de qualité. Et il n'y a pas
c'est
de
l'Allemagne.
Il y a pas de neuf.
Évidemment qu'il y a des joueurs de qualité.
Et il n'y a pas de neuf.
Ouais, mais voilà. tu as un banc de touche.
C'est l'Allemagne aussi depuis plusieurs années.
Tu as un banc de touche qui est quand même très relatif. Hein. Ils ont de la qualité, mais c'est plus le banc de touche que tu as connu il y a quelques années. Mais alors, c'est drôle parce que tu vois, c'est la réflexion que je voulais me faire. Ils ont marqué un but au bout de 7 secondes en étant extrêmement direct. Et derrière, si je veux faire une critique, et encore là, vraiment je pinaille, c'est que je trouve qu'ils ont un peu le défaut de la modernité, mais on va en parler certainement avec les Anglais, c'est que. À force de jouer dans des équipes où on t'oblige à faire des séquences de possession interminables, ils font 12 touches de balle là où tu peux en faire 4. Il y a des situations dans nos 30 mètres où en jouant plus direct, ils auraient pu être plus dangereux.
Ça, j'ai l'impression que ça fait 10 ans.
C'est le problème de beaucoup d'équipes.
Depuis, notamment que Guardiola,
c'est exactement
Joachim Löw à l'époque, en Allemagne,
il était
au.
Et c'est pareil avec Arteta, et c'est pareil avec Nuno, et c'est pareil avec De Zerbi. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur un football, on veut des grosses séquences, il faut multiplier les touches, on veut contourner le bloc et chercher un décalage.
Nagelsmann est un héritier de ça aussi.
Oui, mais regarde le premier but. Le premier but, c'est la parfaite antithèse de ça. T'es quand même hyper efficace.
D'ailleurs, le premier but, si la France joue un peu au foot, il n'y a peut-être pas de
non,
premier
y a pas but.
Parce que Wirtz, il a le temps de.
Il y a une erreur de Koundé qui est avec
un
au
café,
départ,
un sandwich,
qui le laisse partir et qui recule parce qu'il y a son joueur sur le côté. Là, on est au début du match, vas-y, tu suis et on n'a pas le temps en fait.
Un petit mot sur ce
joueur qu'on découvre, peut-être pas les suiveurs de la Bundesliga, mais peut-être que le public français l'a. L'a connu, je ne dénoncerai pas, mais il y en a un qui le découvre clairement à l'instant, presque où on en parle. Non, je plaisante autour de cette table-là, Eric Raffaisson-Dratana.
Vous pensez à Wirtz, ça,
ou à qui? Non, mais c'est à qui
Patrick
vous pensez?
Je te jure.
T'as vu
Wirtz?
Je vais parler de Reims après.
Oui, Wirtz, dites-moi ce que vous en pensez. Il joue au Bayer Leverkusen, qui domine la Bundesliga.
Il est formidable,
c'est une petite surprise de voir.
Je crois qu'il est sur un double-double au niveau stats. Plus de 10 buts, plus de 10 passes.
C'est la révélation, comme son club est en train de déjouer tous les pronostics.
J'aime pas l'expression, mais on le dit parfois de ce type de joueur, il pue le foot, comme on dit. Il est formidable, ce joueur.
Bravo, monsieur.
Il a tout, il a la prise de risque, il a le talent et la technique, il a la vitesse, il a une frappe de balle visiblement exceptionnelle.
Il rentre quand même dans le moule allemand des dernières années, c'est que lui il est interchangeable. Quoi. Tu le mets sur un côté, tu le mets dans l'axe, tu le mets en 10, tu le mets en faux 9, il est performant, il a une palette assez complète, il a un côté Griezmann. Alors plus jeune, ça demande à être étoffé et ainsi de suite. Regarde le nombre de solutions différentes que tu peux apporter avec Musiala, avec Müller, avec Havertz, c'est les mecs qui jouent à des postes en sélection, qui ne jouent même pas en club, ils ne s'entraînent même pas à ce poste-là en club. Et ils sont très très bons quand ils jouent en match. Donc ils rentrent dans ce moule-là, avec toute la fougue de la jeunesse, et puis cette espèce aussi d'instantanéité, de tenter des trucs qui ne réussissent pas toujours, mais au moins le fait que ça déconcentre l'adversaire, ça le déstabilise. il est amené, il est promis à être une très très grande... être déjà un très bon joueur et être une très très grande star du foot.
Mais on suivra ça. On suivra ça évidemment dans Radio Foot. Allez, avant de se quitter, on va parler d'une autre affiche de rêve de ce week-end, Angleterre-Brésil. Et dans cet affrontement entre le pays qui a vu naître le ballon rond et le pays qui l'a sublimé, c'est le second, qui est aussi celui de la samba, qui s'est imposé ce week-end dans le temple du football à Wembley, succès du Brésil contre l'Angleterre. Et dans cet affrontement entre nations historiques, il ne faut pas simplement regarder en arrière, le passé, l'avenir est très prometteur. Il y avait un match dans le match, duel de jeunes du Real Madrid, certains bien installés, évidemment l'anglais Jude Bellingham, les Brésiliens Vinicius et Rodrigo, mais c'est le Brésilien qui a encore tout approuvé, Hendrick, 17 ans, même pas encore au Real, alors qu'il a signé. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas encore majeur. Et bien c'est lui qui a débloqué la situation samedi à la 80e, 17 ans, un compteur but très bien né en Seleção à Wembley contre l'Angleterre, Patrick Gérard.
Ah oui, c'est impressionnant. Hein. On avait un peu enterré cette équipe du Brésil sur le thème.
Ouais, bon, enterré toute seule.
Ça joue plus bien et tout ça, mais il faut jamais enterrer le Brésil. C'est une des leçons de ce match. Après, je pense que pour les équipes qui sont appelées à être parmi les favorites de l'Euro, donc comme la France et l'Angleterre...
Il y aura le Brésil.
Pardon ?
Il y aura le Brésil.
Non, c'est pas ça.
Mais c'était un piège, monsieur.
Ce que je veux dire, c'est que cette date du mois de mars, elle tombe un peu mal pour beaucoup de joueurs qui ont un double ou un triple calendrier dans leur club. Donc peut-être que le Brésil a su en profiter, qu'il faudrait les revoir sur un...
Après, il y en a beaucoup qui jouent en Europe quand même.
Oui, ouais. Mais il ne faut pas enterrer le Brésil. Parfois il ne faut pas enterrer certains grands clubs en Coupe d'Europe. Là, je pense qu'il ne faut pas les enterrer.
Il y a un nouvel entraîneur, donc un nouveau projet, Dorival Junior.
Un nouvel entraîneur, mais qui ne va peut-être pas durer très longtemps.
Alors, en tout cas, ce n'est pas un jeune loup, hein. C'est un entraîneur très expérimenté, qui n'a pas forcément des références extraordinaires au niveau international. Il a une génération, comme souvent, dorée, avec pas mal de jeunes diamants à polir. Eric Rabessandratana, il y a un côté un peu... histoire sans fin peut-être du Brésil, prometteur dans les matchs amicaux et puis qui déçoit beaucoup depuis 20 ans dans les Coupes du Monde.
C'est vrai qu'ils ont du mal après on compte surtout sur Neymar, puisque Neymar a été longtemps le fer de lance de cette équipe et du coup là ça se reconstruit sans. C'est plutôt intéressant, hein. Ça a été le score est logique pour le Brésil, je trouve. Après il faut voir si dans la continuité, dans l'expérience qu'ils vont acquérir ensemble, est-ce qu'ils seront capables de garder cette régularité ? Parce que c'est ça le plus dur en fait au niveau. Et là, c'est des jeunes très prometteurs, mais on les attend au tournant évidemment.
L'avantage, c'est qu'ils vont pouvoir s'entraîner ensemble au quotidien pour certains. Vinicius, ouais, Rodrigo, Hendrick.
Je disais presque Madrid tous. Je crois qu'ils jouent tous en Europe.
Bah, pratiquement, ouais, pratiquement. Il y avait Gomez au milieu qui joue du Brésil. Naïm Moniol, est-ce que pour faire un parallèle avec notre débat précédent, le Brésil, c'est l'Allemagne qui se reconstruit et l'Angleterre, c'est le favori de l'Euro qui assure pas et qui inquiète avant l'Euro.
Le Brésil n'est pas tombé aussi bas que l'Allemagne, quand même, Hugo, soyons raisonnables. Je pense que quel que soit
le nombre de leçons que je me serais pris.
Non. Oui, mais je suis là pour ça, vous savez. Mais n'importe
c'est normal,
quoi.
Les Picards aiment pas trop les Ardennais.
Je me serais fait recadrer aujourd'hui. Ça me fait du bien.
Non, mais le Brésil n'est pas tombé aussi bas. Je crois que vous avez parlé du sélectionneur. Quel que soit le sélectionneur qu'il y aura,
déjà.
La survie du Brésil passe par une adaptation au foot moderne. C'est-à-dire que le Brésil qui a le ballon, qui joue haut, qui dribble, qui n'a pas trop de physique, pas trop de défense, mais qui est capable d'être magicienne, elle n'existe plus. Le départ de Neymar, je pense, sonne d'ailleurs le glas de cette génération. Vinicius, qui est le meilleur joueur de cette équipe, ce n'est pas du tout son style. C'est une équipe qui joue en contre. Moi, j'ai regardé le match. L'Angleterre ne fait pas un mauvais match. C'est ça qui est terrible pour l'Angleterre. Alors, je pense qu'un peu comme l'Allemagne, elle s'est un peu caricaturée. Ben oui, parce qu'elle se caricature à vouloir faire des trucs et des machins, mais ils n'ont pas les titulaires. Mais ils ne font pas un mauvais match. Le Brésil, par contre, il est très bon en contre. Il tape le poteau. Vinicius rate un face-à-face incroyable. Il gagne 1-0. Super. Là aussi, je vais être très mesuré. C'est qu'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, quand Eric, toi, t'en as connu, je ne sais pas combien, des Brésiliens comme ça, quand ils arrivaient en Europe, les mecs, ils avaient déjà un gros background local. Et les clubs brésiliens, c'était des sacrés clubs à l'époque.
Là,
aujourd'hui, le championnat brésilien, c'est quand même pas mal effondré en termes de niveau. Et les types, bah, quand ils sont au Brésil, en fait, on les prépare à arriver en Europe. Ils arrivent de plus en plus tôt, de 18-20 ans. Et aujourd'hui, tu n'as plus réellement d'identité brésilienne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le sélectionneur, quel qu'il soit, il va falloir qu'il adapte le Brésil au profil des joueurs et au fait que c'est une équipe européenne bis. Et il y a un truc que je souligne. C'est que cette équipe qui joue pas mal, mais elle joue sans Neymar. Et comment elle a gagné la dernière Copa América, le Brésil? Bah sans Neymar.
C'était en 2019
que, oui, et que ce Neymar qui a tout... Moi, on va pas refaire. Neymar, il a des qualités monstrueuses. Même à 50% blessé, à moitié bourré, il joue super bien, Neymar. Mais il faut dire une chose, quand il est pas là... Ça force le sélectionneur et les joueurs à se réinventer. Et ce qu'on voit, c'est cohérent. Oui, et c'est cohérent. C'est plus l'identité brésilienne que tu as connue. Moi, on rêvera plus devant des matchs.
C'est une réalité du football moderne.
Ouais, mais t'avais encore un côté voilà. Aujourd'hui, t'avais encore un côté carioca avec Neymar quand même.
Dès l'instant que t'as un Neymar, t'as un Messi, t'as un Ronaldo, les joueurs sont focalisés pour donner le ballon à. Et dès l'instant que tu l'enlèves, comme par hasard, ils retrouvent un collectif. Puis, et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que c'est rassurant.
Ça a marché pour la France sans Griezmann.
Et en plus, tu regardes. Ouais, mais c'est des bons joueurs, ouais. Mais c'est plus des joueurs, tu vois. Paqueta, c'est West Ham. Bruno, c'est Newcastle. Tu joues avec des joueurs locaux.
C'est pas Zico et Falcao.
Ouais, voilà. Rapinha, ouais, c'est quand même pas le joueur majeur du Barça. Enfin, t'as des joueurs qu'on connaît parce que ou ils sont passés par la France ou parce qu'ils jouent dans des grands clubs, mais c'est plus les stars qu'on
c'est
a connues.
C'est plus la dream team d'artistes. Je pense qu'il
faut revoir l'image qu'on a du Brésil. Le Brésil ne mourra jamais, hein, mais il faut revoir l'image qu'on a du Brésil.
Et l'Angleterre qui ne gagne jamais rien. Faut-il qu'on revoie notre image d'une équipe prometteuse qui ne gagne jamais rien.
Non, alors,
est-ce qu'elle vous inquiète avant l'Euro?
Non, elle ne m'inquiète pas parce que la densité de talent, là, pour le coup, elle est grande. Peut-être plus que le Brésil aujourd'hui. Maintenant, c'est la période qui est compliquée. C'est le sprint final en Première Ligue. Beaucoup de joueurs engagés dans des clubs qui sont en course en Ligue des Champions, donc qui ont d'autres objectifs en tête. Donc, je pense qu'il ne faut pas les... Et puis, dans le contenu, l'Angleterre a eu le ballon. Non, c'était pas indigne.
C'était pas indigne,
mais tu perds à Wembley chez toi, même
contenu,
si c'est le Brésil.
Oui, ça l'a fait
mal. Ça fait une petite tâche, quand même.
Mais je pense qu'il peut être aussi que, si on se réfère à ce que lisaient les sites et les journaux anglais dans les jours avant le match, c'était un peu, bon, bah, c'est bon, l'Angleterre est au-dessus, les battre. Bah non, c'est quand même le Brésil qui a à défaut, parfois, d'avoir une énorme densité de talent, a de l'orgueil et... un standing à défendre. Donc
et à l'inverse, voilà. Est-ce que l'Angleterre n'a pas tendance à manquer un peu d'humilité, justement?
C'est une
génération dorée, bonne campagne, ce qui change de
quelques bonnes campagnes, t'es quart de finaliste de la Coupe du Monde, t'es finaliste du dernier Euro, t'as quand même des joueurs qui sont importants.
Pendant longtemps, ça a été le désert de Gobi en termes de campagne.
En termes de quoi?
En termes de campagne. Ils ont longtemps... raté toute leur campagne.
Ah oui, mais toujours
depuis
avec des gros
2018,
effectifs.
Avec Gérard,
des bonnes campagnes.
Toujours avec des gros effectifs.
C'est plutôt l'exception que la norme. Est-ce que là, il n'y a pas un peu.
Oui, mais ils
n'ont toujours pas gagné. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un melon pour parler.
C'est pas.
Un melon, je ne sais pas. Mais y a, comme pour l'Allemagne, il y a un stéréotype qui s'est imposé dans cette équipe. C'est qu'on veut forcément faire du Guardiola, du Arteta, du De Zerbi. Il faut relancer court. Il faut faire 15 touches de balle là où tu peux en faire 4. Alors. Je comprends que les mecs, ils jouent comme ça tous les week-ends. Peut-être qu'à un moment donné, ils prennent la forme. Mais
des formations professionnelles.
Voilà, c'est un peu relou.
Et
des moments
Edouard Delahaye est allé en Angleterre, dénaturé, si je puis dire. Le,
ça
le jeu
pas,
comme en Allemagne. C'est un petit peu ça que vous voulez reprocher.
Je trouve qu'ils ont perdu aussi ce qui faisait le côté perfide et un peu... vicelard des Anglais dans les grands tournois.
On va trop loin.
Non, mais c'est vrai. Comme l'Allemagne a perdu, et qu'on l'a un peu revu avec le but de Wirtz, la capacité à frapper, à faire preuve de spontanéité parfois, ils l'ont un peu perdu. C'est un peu scolaire, l'Angleterre, parfois.
Voilà, un bon vieux kick and rush, mon cher Eric Rabessandratana.
Je n'ai jamais joué comme ça, monsieur.
C'est ça qui le manque. Merci, Emmanuel, Eric Rabessandratana. Et merci, Patrick Juillard. C'est la fin de Radio Foot. Demain, Annie revient.